Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. L'expédition Bonaparte en Égypte de 1798 à 1801 a provoqué un choc culturel en Égypte et dans les pays arabes. Les sciences dites profanes y sont réintroduites sans réserve au 19e siècle, mais font aujourd'hui débat autour de deux visions. L'acceptation des techniques scientifiques d'une part, mais la distanciation vis-à-vis du savoir scientifique d'autre part. Car une idée reste très ancrée dans le monde majoritairement musulman, celle que la science ne peut mener qu'à une seule connaissance, celle de Dieu. Une vision étroite qui explique pour partie les difficultés de la recherche fondamentale dans la région. Quand le monde arabe redécouvre la science et les techniques, c'est le thème d'Orient Hebdo ce dimanche. Nous sommes en compagnie de Fawzia Charfi, physicienne et ancienne secrétaire d'État à l'enseignement supérieur de Tunisie. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous avez donné récemment à l'Institut du Monde Arabe à Paris une conférence sur la redécouverte de la science et des techniques par un monde arabe qui en était resté longtemps éloigné. De quand date cette découverte ?
De l'expédition Bonaparte, donc 1798, c'est un choc et on se rend compte à quel point le monde arabe est loin derrière cette Europe qui voilà, est dans ce 19e siècle où la science est partout et donc il faut réenseigner les sciences exact. Il faut former les jeunes, que ce soit en Égypte, au Maghreb, et ça se produit aussi en Turquie et en Iran. Et donc, retrouver en fait le passé dans le sens où il faut retrouver cette méthodologie scientifique qui existait dans ces terres d'islam en fait, et en même temps réaliser tout ce que la science a pu produire pendant ces derniers siècles, donc depuis la fameuse révolution copernicienne, que découvrent les Arabes, puisque les Arabes en étaient restés, enfin je dis ça comme ça, en deux mots, en étaient restés au géocentrisme. Et c'est ce que Tartawi découvre, allant à Paris en début du 19e siècle, premier quart, autour de 1826, par là, il découvre qu'effectivement, voilà, l'Europe a pris ses distances par rapport à l'ancienne vision, celle qui existait dans les textes sacrés.
Quelles sont les sciences qui sont réintroduites dans ce monde arabe et notamment en Égypte, mais pas seulement ?
Toutes les sciences dites exactes, y compris même les mathématiques, puisque les universités traditionnelles, que ce soit l'université de l'Azhar en Égypte, la Zitouna à Tunis, Al-Qarawiyyin à Fès, avait rompu par rapport à cette tradition scientifique. Donc, on a réintroduit les mathématiques, la physique, la chimie, peut-être un peu de botanique, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les sciences, entre guillemets, profanes, pour les distinguer des sciences religieuses qui, elles, remplissaient tout l'espace dans ces universités traditionnelles.
Est-ce qu'il y a une fascination pour un certain nombre d'étudiants, voire de scientifiques, il y en avait quelques-uns, dans ces pays, notamment l'Égypte ou la Tunisie, pour ces sciences que l'on redécouvre ?
Oui, fascination, bien sûr. Enfin, je parle de l'époque d'aujourd'hui, donc la physique, les mathématiques, alors plus peut-être les mathématiques que la physique. Finalement, peut-être que quelque part dans nos pays, on a du mal à être très à l'aise dans des sciences qui vont un peu faire parler la nature. Les mathématiques, c'est plus abstrait. Bon, c'est une science qui fait appel à l'intelligence, la logique, et qui est beaucoup plus développée dans nos pays que les sciences physiques, la physique, et j'ai eu à être un petit peu confrontée au malaise de certains étudiants qui, au milieu des années 70, donc, avaient quelques réticences à propos de théories scientifiques.
Mais à l'époque, dans la suite de cette exposition Bonaparte, qui a été un choc pour toute cette région, et qui d'ailleurs ensuite a été aussi un second choc, puisque ça a introduit finalement la colonisation de toute cette région, est-ce qu'il y a une fascination quand même pour cette science qui s'est développée en Occident ?
Oui, et moi j'incite les auditeurs à lire Tartawi, donc qui va à Paris, donc 1826, il passe 5 années à Paris, il découvre les sciences, il découvre Paris, bien sûr, mais il faut voir comment il parle des sciences et comment il parle de ce qu'est un savant. Un savant, chez les Français, c'est un savant de science et non pas un savant de religion. Et les savants ne connaissent pas nécessairement ce qui relève de la religion chrétienne. Et les prêtres, eux, ne connaissent pas nécessairement la science, dit-il. Donc voilà, c'est un monde nouveau qu'il découvre. Et avec beaucoup de prudence, il parlera du géocentrisme, dans le sens où, pour lui, c'est ce qui est admis par les textes, alors que maintenant, les Francs, comme il dit, distinguent le Soleil, qui est fixe, du reste, donc des planètes, des satellites, etc. Et il a du mal à parler de manière très franche de cette révolution copernicienne, parce que a-t-il peur de la réaction de ses collègues, c'est-à-dire les Halm, les savants de sciences religieuses, pour qui la Terre reste encore au centre du monde. On est au XIXe siècle, en Égypte.
Fawzia Sharfi, il a souvent évoqué dans les pays arabes une science profane, sous-entendant qu'il y aurait une science religieuse. De quoi parle-t-on précisément ?
Effectivement, on fait la distinction entre les sciences religieuses et les sciences profanes. Les sciences religieuses, ce sont l'étude du texte coranique, des exégèses, toute la théologie, la rhétorique, tout ce qui est autour de la langue. Et en fait, quelques rudiments, mais vraiment des rudiments d'arithmétique, bon, pour comprendre les questions liées à l'héritage. Mais là, je traduis vraiment une réalité, puisque toute l'astronomie arabe, donc, qui est allée très loin pendant plusieurs siècles, hein, elle a duré jusqu'au XIVe siècle, qui a même, dit-on, inspiré l'astronomie de Copernic, etc., toute cette astronomie n'était plus du tout enseigné, c'était réduit à la détermination du calendrier lunaire et puis voilà la direction de la Mecque, donc la Qibla, et puis la détermination des heures de prière. Je fais une petite parenthèse à considérer que oui, le calendrier, les dates de fêtes religieuses, etc. doivent se faire comme c'était dans la tradition, c'est-à-dire ne pas se fier aux prévisions des scientifiques et attendre que la lune se lève.
Alors justement, vous-même, lorsque vous étiez enseignante, avez-vous ressenti chez vos étudiants certaines réserves vis-à-vis de théories scientifiques ?
Eh oui, malheureusement, certains étudiants se sont laissés aller à cette tendance qui tend à dire que la science exacte est dangereuse et donc on ne peut pas tout accepter, sauf évidemment ce qui est supposé être dans le texte coranique. Et entre autres, donc, mes étudiants refusaient le point de vue qui est développé dans la théorie de la relativité restreinte, donc le point de vue d'Einstein, qui avait bien dit clairement donc que la lumière a une vitesse finie et tout ce qui va en découler. Donc, ce qui m'avait frappé, c'est que les étudiants, je leur avais aussi enseigné la vitesse finie de la lumière à partir de la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell. Ils l'avaient accepté. Mais dans le cadre de la relativité restreinte, là, ça touchait à peut-être une certaine conception du monde, voyez. Et du coup, il y avait cette distance qu'il s'imposait avec la science.
Alors, on aurait pu penser que ce seraient les sciences humaines qui seraient victimes d'un rejet dans cette région. Comment expliquer que cela touche finalement certaines lois de la physique ?
Ça touche les lois de la physique parce que il faut dire qu'on n'enseigne pas la physique avec toute sa dimension historique aussi. Mais je pense que c'est important quand on fait de l'astronomie de montrer que, voilà, on s'est posé beaucoup de questions. Effectivement, il faut réaliser aussi que la science n'est pas conforme au sens commun. Ça, beaucoup l'ont dit, Darwin l'a dit aussi, il s'en plaignait d'ailleurs. Voilà. C'est difficile de réaliser qu'en fait, comment des étudiants qui ont décidé de faire de la science, en fait, ont cette distance par rapport à la science parce qu'il leur manque une culture générale, il leur manque cette vision qu'ont les étudiants de sciences humaines à travers l'histoire, à travers la géographie. Donc, vous voyez qu'il y a une dimension, en fait, historique que malheureusement les étudiants scientifiques n'ont pas. C'est pour ça que je plaide, moi, pour l'introduction de l'histoire des sciences dans l'enseignement. Et puis, cette dimension aussi relative par rapport à la géographie, les différentes civilisations également, etc. La littérature, c'est une grande ouverture aussi pour nos enfants. Donc, tout en étant scientifique, moi je crois que on doit vraiment se poser des questions, en tout cas je parle de mon pays, la Tunisie, et on s'est posé des questions sur la manière dont les étudiants scientifiques sont formés et l'espace restreint dans lequel ils évoluent, qui les amène à être séduits par cette vision dogmatique des choses.
écoutez Orient Hebdo sur RFI, nous sommes en compagnie de Faouzia Charfi, physicienne et ancienne secrétaire d'État à l'enseignement supérieur de Tunisie. Quelles sont les conséquences de cette distinction entre fondement de la science et savoir scientifique? Comment est-ce que ça se matérialise?
Alors, fondement de la science, je pense qu'on vit aujourd'hui une période où on doit expliquer à quel point les fondements de la science aussi se retrouvent dans notre quotidien. Voilà. Vous savez, on a l'habitude de faire une distinction, les fondements de la science fondamentale, les applications. Mais tout un chacun, en tout cas en France, a son GPS. Mais que serait le GPS sans la relativité restreinte et la relativité générale? Il n'existerait pas, parce que vous n'auriez pas la précision nécessaire pour être localisé. Avec cette mesure du temps qui doit absolument tenir compte de ces deux grandes théories, eh bien, vous voyez que la science, dans ses fondements mêmes, a une conséquence directe sur les applications qui nous sont quotidiennes. Une autre application dont j'aime bien parler maintenant, tous les codes-barres pour payer ce que vous avez à acheter tous les jours. Ben, qu'est-ce qui est derrière le code-barre? C'est le laser. C'est un objet quantique par excellence. La théorie quantique, c'est vraiment la théorie pure, on va dire. Mais c'est grâce à cette théorie-là que, voilà, on a inventé cette source de lumière qui a ses propriétés particulières. Cette émission stimulée à l'origine dont Einstein avait parlé, qui paraissait complètement tout à fait loin de nos préoccupations. Et donc, vous voyez, là, moi, j'ai envie de dire aux jeunes, vous voyez, la science est magnifique quand même, parce que ça rend la vie agréable aussi.
Et les techniques, les technologies ne sont pas dissociables de la science?
Absolument. Les technologies ne sont pas dissociables de la science. Par ces exemples-là, c'est absolument fondamental. Mais je le redis parce que aujourd'hui, on a l'impression que le monde doit être dominé par les technologies. Et ça, c'est une dérive. Moi, je pense que c'est grave que nous oublions tout le travail qui est derrière et toute l'intelligence qui est derrière. Et cette intelligence qui est derrière toutes ces avancées scientifiques doit aussi nous faire réfléchir sur les limites de cette utilisation, en fait, des avancées scientifiques sur notre planète, sur notre environnement, sur toutes les questions liées à la santé. Bon, dans le domaine médical, il y a cette imagerie médicale qui vient justement des fondements de la science. Mais bon, il faut aussi faire attention aux dérives possibles aussi de ce à quoi peut nous mener la science.
Alors, Faouzia Charfi, on pensait que la science, en ce qu'elle décrit des phénomènes réels, était universelle. Est-ce le cas selon vous?
Moi, je plaide pour l'universalité de la science. Pour moi, la science est un langage commun. C'est un langage qui nous rapproche, c'est un langage qui nous unit. Je parlais d'intelligence tout à l'heure. C'est un langage des intelligences, oui. Et en tant que Tunisienne, j'ai eu l'occasion de travailler avec des collègues français sans qu'il y ait aucun contrat de recherche ni quoi que ce soit, sans les connaître particulièrement. Mais on avait ce langage commun qui est la science et voilà. On avançait à travers nos travaux de recherche, à travers nos publications et ce partage, en fait, de la science. Et je plaide pour que on continue à favoriser ce genre d'échange, que la Méditerranée ne soit pas là pour trop nous séparer.
Alors, comment expliquer que dans le monde arabe ou arabo-musulman, on ne considère pas, ou certains ne considèrent pas, que la science est universelle?
Alors, difficile de pas considérer que la science est universelle. On va dire oui, mais je pense que c'est une méconnaissance aussi de ce qu'a été la science. Et je reviens à l'histoire des sciences, à la construction de la science. Parce que c'est vraiment un héritage culturel que nous partageons et que nous devons continuer à partager. Parce que considérer que la science n'est pas universelle, vous voyez, ça sert les intérêts de ceux qui veulent raccrocher la science aux religieux ou de ceux qui veulent considérer que certains théories scientifiques sont contraires aux religions, etc. Et donc, c'est notre ennemi réel aujourd'hui. Hein. Et Internet qui a été découvert par la science, par des gens qui faisaient de la science fondamentale, hein, eh bien malheureusement aujourd'hui peut être le vecteur de toutes ces opinions, on va dire, qui s'érigent aujourd'hui contre la science. Et ça, c'est un réel danger aujourd'hui.
Il y a aujourd'hui des personnalités, une pseudo-scientifique, on va dire égyptienne, ou un imam Ariad qui affirme que, en fait, la Terre est plate, etc., etc. Pensez-vous que la science soit instrumentalisée par un certain nombre de personnes dans cette région?
La science, déjà, ces théories de la Terre plate, etc., en fait, je pense qu'il y a instrumentalisation aujourd'hui et que Internet est un support facile. Parce que, vous voyez, hein, c'est facile d'imaginer, de représenter le monde d'une certaine manière, etc. Mais je pense par ailleurs qu'il ne faut pas donner plus d'importance que ça n'en a. Par contre, ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, cette théorie qui considère, par exemple, que la Terre est au centre de l'univers, ce nouveau géocentrisme est en train de se développer. On est très loin de Riyad et de... Mais là, ils utilisent, en fait, ce que sont en train de propager certains fondamentalistes catholiques aux États-Unis qui reviennent au géocentrisme en utilisant les résultats de la science moderne et en les interprétant comme si, en considérant que les interprétations données aujourd'hui sont fausses et qu'elles doivent être revues en considérant que la Terre est fixe. Ça, c'est grave, parce que ça, c'est un véritable détournement de l'esprit scientifique, la méthodologie scientifique. Alors que, bon, certaines vidéos de Séoudiens ne sont pas prises au sérieux. Vous voyez, là, c'est une atteinte vraiment à la science et à l'esprit scientifique qui peut être utilisée dans nos pays pour dire, vous voyez, aux États-Unis, il y a des gens qui pensent comme ça, c'est le pays de la science.
Vous voulez dire que si la religion se mêle de science, il y a un problème?
Absolument. Depuis des siècles, Galilée s'est battu contre l'Église, hein, pour l'autonomie de la science, et je plaide pour l'autonomie de la science, parce que sans ça, il y a vraiment problème.
Vous qui étiez enseignante, comment faire pour que les jeunes renouent aujourd'hui avec l'universalité des sciences?
Leur montrer la beauté de la science. Moi, je crois que c'est tout simple. Leur raconter aussi, en fait, le travail qu'ont dû faire tous ces savants, pas seulement européens, revenir sur le Gerd. Vous savez qu'il y a une légende sur ce fameux savant arabe du 8e, 9e siècle. Il avait parlé de l'évolution des espèces. Lui avait beaucoup étudié les espèces vivantes. Et on dit qu'il a été, malheureusement, il est décédé parce que tous les livres qu'il avait lui sont tombés dessus, vous voyez. Bon, on pourrait susciter déjà, comme ça, des petites histoires autour de la science. Mais on pourrait parler de manière extrêmement intéressante, par exemple, de l'art et de la science. Moi, j'aime bien évoquer, par exemple, toute cette art de l'ornement dans le monde islamique et de voir aussi comment les artisans étaient en relation avec les mathématiciens, etc. C'est de très belles histoires qui rendent... Il faut aussi redonner vraiment le goût de la science. Il faut aussi émouvoir les jeunes. Bon, les jeunes, en fait, je pense, sont émerveillés par le monde. Ne cassons pas ce goût comme ça de l'émerveillement, de la curiosité.
Merci Fawzia Charfi. Je rappelle que vous êtes physicienne et ancienne secrétaire d'État à l'enseignement supérieur de Tunisie.
Merci à vous.
Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani, que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Vous pouvez également la podcaster sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite le journal.